Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Anna Cibot pour aborder la question de notre rapport au corps vis-à-vis de nous-mêmes dans nos relations interpersonnelles et dans notre rapport au monde. Anna est coach et autrice. Oui, autrice, vous avez bien entendu, car l'inclusion et l'égalité homme-femme sont des thèmes qu'elle porte haut et fort dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle aborde dans cet épisode son parcours atypique et comment elle s'est reconnectée à son corps, notamment grâce au sport, pour s'assumer pleinement. Aujourd'hui, je suis ravie de discuter à distance avec Anna, faute de pouvoir t'accueillir puisqu'on est toujours en confinement. Donc Anna, coach atypique et féministe, sur un de tes thèmes passion, balance ton corps, ou comment se réapproprier son corps pour déconstruire ses idées reçues et ainsi être soi-même. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Anna ?
Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Lydia de m'avoir accueillie comme ça à distance. Alors moi je suis coach donc depuis bientôt 3 ans et j'accompagne des personnes dans leur cheminement d'évolution professionnelle et personnelle. Et en tant que féministe, en déconstruction depuis plus de 5 ans, je m'intéresse particulièrement aux thématiques qui touchent le corps parce que c'est notre premier outil et que je trouve que c'est un excellent moyen de se connaître, de s'accepter et d'avancer avec ce vaisseau qui est le nôtre.
Ouais, c'est super que tu parles de l'acceptation puisque c'est justement un des thèmes qu'on voulait aborder avec toi. Si on commence par un petit peu un constat, j'ai l'impression que beaucoup d'individus sont déconnectés de leur corps et de leurs ressentis. Est-ce que tu pourrais expliquer selon toi pourquoi ?
Alors c'est une question qui je pense a trait notamment à l'éducation. Et déjà, je pense qu'il y a un vrai différentiel entre la déconnexion que peuvent ressentir les femmes, d'une part, et les hommes. Et c'est vraiment lié à la manière dont chacun et chacune, on est sociabilisé. Mmh. Et je dirais que les hommes sont éduqués d'une façon à être assez complètement déconnectés de leurs émotions, hormis peut-être la colère, qui est plutôt valorisée. Et les femmes, à l'inverse, nous, on est plutôt très connectée à nos émotions, c'est plutôt le domaine qu'on nous propose de gérer, très petite, qui est très valorisé chez nous. Mais par contre, j'ai l'impression quand même, en tout cas en réfléchissant à ça, qu'on est surtout invité à prendre en compte les émotions des autres et pas forcément les siennes. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi que voilà, dans la société, les métiers du care, donc tout ce qui est lié aux soins, sont beaucoup attribuées aux femmes, ou en tout cas occupées par les femmes. Et en l'occurrence, ce sont des femmes qui s'occupent des autres personnes, et pas forcément d'elles.
Et du coup, la question qui vient ensuite est qu'est-ce qu'on peut faire, toi qui as fait un travail personnel de déconstruction, comme tu le dis, comment libérer son corps du mental pour finalement se recentrer, lâcher prise et laisser place à l'intuition ?
Je dirais que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, une première étape, ça peut être déjà d'apprendre à nommer ses émotions et surtout à parler en « je », c'est-à-dire à dire comment je me sens. C'est une question que je pose systématiquement, je pense à chaque séance, avec les personnes que j'accompagne, et qui est « comment tu te sens ?» Et je constate que souvent, au début des accompagnements, les personnes ont du mal à dire comment elles se sentent. Elles vont dire bien, mais au fil des séances, je constate que les personnes arrivent à dire plus précisément « je me sens fatiguée » ou « je me sens en colère ». Ou hier, j'avais une accompagnée qui m'a dit « moi, là, je me sens en tension. Je sens que je me mets la pression ». Et déjà, le dire, le verbaliser, ça permet d'identifier l'émotion, de la désigner, et pour aller vers l'acceptation.
Et justement, tu parles d'acceptation. Donc finalement, quel est le chemin que tu conseillerais aux femmes et aux hommes pour s'accepter et ainsi finalement mieux s'aimer, être mieux dans son corps et de manière plus générale dans sa vie ?
Alors, en tant que coach, je ne donne pas de conseils, ou très rarement, et surtout avec le consentement de la personne. Par contre, ce que je fais, c'est que j'accompagne la personne vers, enfin, sur son propre chemin, en fait, d'acceptation. Et dans le cadre de mon coaching, ça passe par de l'action, être dans le faire. Avant d'être coach, moi, je suis passée par différentes étapes dans ma vie personnelle qui m'ont permis de me reconnecter à mon corps, et ça s'est fait à différents niveaux. Je dirais que le premier, premier gros déclic, en fait, ça s'est fait quand j'ai commencé à devenir sportive. Je m'étais mise dans la case des anti-sports assez automatiquement dès les années collège à peu près.
Pourquoi ?
Eh bien, pour moi, c'est venu du fait que les enseignants, enfin les profs d'éducation physique et sportive m'avaient mis dans la tête l'idée qu'il y avait des personnes qui étaient sportives, en gros des personnes qui étaient faites pour le sport, et puis des personnes qui ne le sont pas. Et en gros, c'est chacun sa team, et puis bah, une fois que la team... Enfin, c'est inné quelque part, et puis on ne peut rien y faire. Et donc, j'avais abandonné ce domaine en me disant, bon, bah, visiblement, ce n'est pas pour moi, donc bah, voilà, je fais autre chose. En l'occurrence, moi, j'étais plutôt la jeune fille scolaire. Donc, okay. Je me suis investie ailleurs. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que sont éduquées les filles. Être plus dans le mental, et les hommes, les garçons, en l'occurrence, plus dans voilà, le sport. Mmh. Lorsque j'ai eu 30 ans, en 2014, j'ai commencé à courir. Suite à une rupture amoureuse,
okay.
comme pas mal de personnes le font, pour se vider la tête, en tout cas moi c'était mon cas. Et puis j'ai rencontré une personne qui est devenue mon coach et qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il m'a dit un jour, tout le monde ne peut pas devenir des athlètes de haut niveau, mais chacun, chacune peut progresser. Et c'est hyper simple, mais moi ça a fait vraiment un électrochoc dans ma tête, parce que je me suis dit, bah, en fait, là, je suis à tel niveau que je peux considérer proche de zéro en termes sportifs. Et bah, je peux progresser. Donc, j'atteindrai peut-être jamais des sommets. Mais en tout cas, moi, je peux m'améliorer. Et ça, ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Et au bout de 3 ans, je suis allée jusqu'à courir le marathon de Paris. Donc, en termes de progression pour une fille anti-sport pendant 30 ans, je me dis que, voilà, en tout cas, moi, ça m'a permis d'être fière de moi, en fait, à ce moment-là.
Tu prends l'exemple d'un marathon et de la course. Pourtant, moi, la vision que j'en ai, c'est quand même une discipline qui est vachement sur le mental.
Ouais, complètement. Mais en fait, j'ai appris ça aussi. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ce coach-là, il m'a fait prendre conscience que je pouvais progresser. Et moi, ça, je l'ai vraiment entendu. Hein, mais je l'ai entendu à travers mes expériences, mon identité, ce que je suis, etc. Je l'ai entendu comme une progression corporelle, on va dire. Et aussi, il m'a appris, c'est la deuxième chose, qu'il y avait aussi beaucoup de mental. Et moi, qui m'étais toujours vue comme une fille très mentale, parce que du coup, plongée du côté des études, ben finalement, c'était génial pour moi, parce que je me suis dit, bah, ce truc-là que j'ai, entre guillemets, inné, ce qui n'est pas du tout vrai, hein, c'est ce que j'ai travaillé au fil du temps, après avoir mis dans cette case, et ben, j'ai pu le mettre au service du sport, justement en trouvant des moyens de me dépasser. Par exemple, mon coach m'a toujours dit, voilà, quand tu fais, par exemple, 8 tours de stade, à l'avant-dernier, tu donnes tout, t'accélères. À l'avant-dernier, pas au dernier. Parce que le dernier, en fait, vu que c'est le dernier, le mental fera l'affaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose purement mental, en fait. C'est de se dire, ok, c'est l'avant-dernier, donc je donne tout. Et ça marche bien. Enfin, pour moi, ça a marché, en tout cas.
Ouais, donc en fait, c'est via le sport que t'es arrivé à, on va dire, apprivoiser ton mental. Et...
Ouais.
Et comment t'es arrivé à accueillir la dimension dont on parlait tout à l'heure, qui est finalement l'entre-deux, entre le contrôle et le lâcher-prise, qui est l'intuition ?
Bah, en fait, ouais, je dirais que c'est pas forcément que j'ai apprivoisé mon mental, c'est plus que j'ai mis mon mental au service de mon corps, déjà dans un premier temps, alors qu'il n'y avait aucune passerelle entre les deux, vu que mon corps n'existait pas trop. Je ne vivais pas trop dans mon corps, du coup.
Okay.
Donc ça s'est équilibré, en fait. D'ailleurs, à ce propos, au niveau du sport, il y a un essai qui est très intéressant que je glisse là au passage, s'il y a des personnes qui s'intéressent, et qui s'appelle Des femmes et du sport. C'est un essai de Anne Sauter, Sauter, et voilà, qui explique comment on se construit d'une part en tant que fille et d'autre part en tant que garçon. Après, c'est vrai que ça a été la première étape et je pense que ça s'est équilibré au sens où j'ai été très loin pour moi hein, à mon niveau en termes de sport, c'est-à-dire je suis passée de anti-sport à marathonienne, à courir trois fois, quatre fois par semaine, enfin de manière assez intensive. Et c'est vrai qu'après le marathon, j'ai eu un relâchement en fait. J'ai plus envie de courir, beaucoup moins, alors que c'était vraiment un sport plaisir aussi pour moi. Hein. C'est un fort moteur chez moi, le plaisir. Et finalement, ça s'est rééquilibré après. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais passée de 0 à 1000. Et qu'après, finalement, ça m'avait juste donné de la marge pour pouvoir choisir où est-ce que je me sens bien. Et aujourd'hui, je fais du sport deux fois par semaine en moyenne à peu près. Je fais de la course à pied et en ce moment, ça me sauve en période de confinement. J'avoue, la course à pied, très pratique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je m'y suis remise. Mais entre-temps, voilà, je fais du sport en salle, du renforcement musculaire parce que j'adore ça. Mais c'est plus équilibré, ne serait-ce que parce que voilà, je varie les pratiques davantage. Je cours avec le groupe de course que j'ai cofondé, mais je suis aussi en salle avec des coachs. Donc voilà, ça s'est plus équilibré, mais que ce soit en termes de fond et de forme en fait. Et aujourd'hui, du coup, c'est ça qui fait que le fait d'être allé très loin d'un côté m'a permis au moment de trouver un juste milieu pour moi.
D'accord. Et quand tu parles d'équilibre, c'est, j'imagine, au-delà de ta pratique du sport aussi, un équilibre que tu as trouvé toi dans ta vie au quotidien.
Ouais, complètement. Bah déjà, le sport, il est arrivé dans ma vie, bah, comme je te le disais, après une rupture. Donc déjà, ça m'a fait du bien à ce moment-là de pouvoir expulser, vivre cette période. Et je dirais que je me suis aussi rendu compte à quel point ça m'équilibrait au niveau de mon énergie, en fait. Moi qui avais toujours été très, très mentale, à ce moment-là, j'avais repris des études de psychologie, justement, pour amorcer ma reconversion pour être aujourd'hui coach. Donc, j'ai fait 3 ans, une licence de psychologie générale à distance, en 3 ans, en parallèle de mon travail à temps plein. À l'époque, je travaillais en agence de communication. J'ai fait 10 ans dans ce secteur. Et c'est vrai que c'était la double semaine, quoi. Enfin, je travaillais à temps plein en agence, plus 15 heures par semaine en moyenne, toute seule à distance, mes cours de psycho. Et j'avoue que mes sessions de course à pied étaient vraiment, m'ont permis de tenir ce rythme, en fait, d'une façon agréable, on va dire. C'est-à-dire, je pense que j'aurais pu le faire autrement, mais beaucoup plus à la dure, quoi.
Ouais, enfin, là, long terme aussi.
C'est
comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est un peu un marathon quand même.
C'est complètement un marathon. Hein, j'ai vraiment fait les deux en parallèle, c'est clair. Enfin, c'était mon pré-marathon, mais c'était un marathon dans le domaine mental. Et ça, je connaissais. Enfin, j'étais à l'aise. Tu vois, c'est vraiment ça. Et qu'il y a un moment, ouais, j'ai fait mon marathon corporel.
Ouais, les deux en parallèle. Ouais, mais c'est chouette.
Ouais.
C'est super. Et du coup, si maintenant on discute plus à une échelle macro, que sont plutôt les relations interpersonnelles, pourquoi finalement on communique différemment selon les personnes avec qui on est et selon notre intention ? Est-ce qu'on va s'habiller différemment ? On va avoir une posture, une attitude, même un langage différent ? Et en fait, ce qui m'a fait penser à cette question, c'est une amie qui se reconnaîtra peut-être en écoutant l'épisode, qui me disait finalement, grâce au télétravail, j'ai complètement transformé la façon dont je voyais mon N+2. Avant, il était avec son costard, sa chemise, sa cravate, et je n'osais pas aller lui parler, je n'osais pas aller toquer à sa porte. Pourtant, je savais qu'il était de base quelqu'un de très bienveillant, à l'écoute, etc. Et depuis le confinement, depuis que je l'ai vu ensuite, on a brisé cette glace-là, et maintenant, on discute ensemble, et ça se passe très très bien. Donc, du coup, je ne sais pas si tu te rappelles de ma question. Donc, c'est pourquoi communique-t-on différemment selon les personnes avec qui l'on est et selon notre intention ?
Le pourquoi, je pense qu'il y a plein de raisons. Et je t'avoue que moi, en tant que coach, c'est plutôt le comment qui m'intéresse.
Oui.
Pourquoi, voilà, j'imagine que c'est, dans l'exemple que tu dis, voilà, c'est une certaine aussi culture de l'entreprise qu'on a, nous, en France, hein, c'est très culturel, ce côté, cette vision de la hiérarchie avec, les boss, costards, les employés en dessous, y a quelque chose de très rigide, par exemple dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, enfin, j'y suis pas allée, mais ils ont quelque chose de beaucoup plus casual, quoi, détendu, on va dire. Quand on voit Mark Zuckerberg, arriver ensuite à la conférence, enfin, bon voilà, on comprend que voilà, ils ont une autre culture, que pour eux, c'est pas parce que la personne n'a pas d'un costard qu'elle n'est pas digne d'être entendue. Donc, ouais, pour moi, il y a beaucoup, enfin, il y a quelque chose vraiment qui est lié à notre culture française. Donc oui, ce qui m'intéresse davantage, c'est effectivement plutôt le comment on fait pour s'adresser de la façon dont on le souhaite ou qui est la mieux pour nous, et aussi en fonction des personnes. Dans l'exemple que tu cites, j'ai l'impression que ton ami, le fait de casser cette vision un peu rigide du boss en costard, etc., ça va peut-être lui permettre d'être davantage détendu, d'être plus elle-même, d'être plus en confiance aussi avec la personne, d'avoir moins un côté voilà, je me sens jugée ou il m'impressionne. Et pour moi, c'est un peu ça le seul objectif, quoi. C'est être de la meilleure façon pour soi, parce que je crois que c'est une des clés d'entrée pour être bien avec les autres. Par exemple, quand j'étais en agence, enfin, j'ai fait un parcours prépa école de commerce, donc très normé, classique. Et à la fin de mon école de commerce, globalement, 80% des personnes allaient en banque ou en audit. Et donc, dans ma tête, c'était OK. Donc, costard, tailleur obligatoire. Pour moi, ça a toujours été une option non négociable. Enfin, ce n'était pas une option, en fait.
D'accord.
Et je suis allée donc, dans le domaine de la communication. Peut-être, franchement, c'est peut-être une des principales raisons, et ça peut paraître stupide, mais de se dire que, OK, dans cet endroit-là, on ne me demandera pas de mettre un tailleur. Égal, je vais pouvoir un peu m'habiller comme je veux. Et moi, c'était hyper important pour moi. Et c'est vrai que dans les 10 années en agence, alors au début, quand on commence, voilà, j'essayais. J'adoptais un style, plutôt, on va dire, propret, quoi, coquet, machin. Mais c'est vrai que dans les dernières années, plus je gagnais en confiance, en fait, et plus j'étais détendue, mais en même temps, tout en faisant gaffe à l'entourage, c'est-à-dire que quand je restais à l'agence, et je savais que j'avais ma journée à l'agence, et j'allais bosser sur des recos, être par téléphone, bah franchement, il m'arrivait d'arriver en short en jean déchiré, et personne ne me disait rien. Par contre, voilà, si j'avais un rendez-vous client, j'adoptais une autre tenue, parce que je considérais, mais c'est ma propre vision, hein, c'est pas forcément la vérité, enfin, pas du tout même, moi aussi, pour moi, je pense que c'était davantage pour moi, c'est-à-dire le fait de mettre tel pantalon ou tel haut, ça me donnait confiance par rapport au client ou à la cliente que j'allais rencontrer.
Tu changeais ta posture, en fait.
Ouais, je pense que ça jouait sur mon mental, en fait. Et même aujourd'hui, tu vois, où moi, je bosse beaucoup à distance, donc clairement, je m'habille comme je veux. Je sais que parfois, pour certains événements, je vais remettre du rouge à lèvres, déjà parce que ça me fait plaisir d'en mettre de temps en temps quand je l'ai choisi, et surtout j'ai constaté que malgré moi, je vais incarner un personnage un peu différent, où ça va jouer sur ma posture positivement.
C'est hyper intéressant que tu parles d'incarnation, et ça me fait penser un peu à un acteur qui rentre dans son rôle quand il a tous ses habits, son maquillage, etc.
Tout à fait.
100% l'autre personne.
Et d'ailleurs, c'est une grande question. Moi, je trouve que la période du confinement, pour ça, est hyper intéressante. Moi, c'est vrai que ça a relativement peu d'impact sur mon mode de vie, parce que depuis que je suis passée donc, hors du système entreprise, métro, boulot, dodo, moi, je travaille à distance principalement. Je travaille déjà beaucoup à domicile. Donc, mon mode de vie d'indépendante est 80% compatible avec le confinement quelque part. Et du coup, m'a aussi permis de continuer à prendre mes libertés et à en prendre de plus en plus par rapport à mon habillement, mon apparence, etc. Mais je me suis vraiment dit assez rapidement, mais tiens, les femmes, parce que en l'occurrence, dans notre société, c'est surtout à nous qu'on parle d'apparence et à nous qu'on donne des injonctions vestimentaires ou de l'ordre esthétique. Est-ce que les femmes, justement là, qui se retrouvent télétravaillant à distance, derrière leur téléphone ou leur ordi, en gros, on ne les voit plus, dans quelle mesure elles vont réinvestir cet espace-là, ou en tout cas, voilà, arrêter de se maquiller tous les matins pour aller au bureau, ou arrêter de s'épiler, là? Enfin, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a une étude sociologique à faire sur le confinement.
en particulier, ça me fait penser au Japon où je crois qu'il y avait eu un... J'avais vu un article comme quoi les femmes qui travaillaient dans les bureaux devaient avoir des chaussures à talons. Ouais. Ça a fait un tollé.
Ouais.
Je ne sais pas si ça a été remis en question suite au confinement ou pas, mais effectivement, ça mérite de s'interroger sur ça.
Comme si la chaussure avait un impact sur le cerveau. Mais et en même temps, peut-être... Enfin, oui, je me contredis aussi en disant ça, parce que moi-même, je me dis que quand je mets du rouge à lèvres, je vais être différente. Mais la différence quand même que je vois, c'est sur l'injonction, l'obligation. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est les obligations. Ce que les personnes font pour elles-mêmes, parce qu'elles l'ont choisi, c'est très bien. Enfin...
Oui, en fait, c'est utiliser le corps comme un langage à part entière, ouais. Mais en étant maître de ce qu'on veut générer en termes d'impact, en fait.
Oui, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, sur le corps, une autre référence que j'ai trouvée super, c'est une BD qui a réalisée Léa Bordier, Bordier, qui s'appelle Cher Corps, et qui rassemble différents témoignages de femmes qui vont de 14 à 77 ans, je crois. Et ça parle de leur rapport au corps, et leur chemin d'acceptation aussi vers elles-mêmes. Et voilà, ça donne à voir aussi plein de réalités différentes.
Okay.
C'est ce que je trouve intéressant. Et justement, ça met en avant le fait, selon moi, que c'est très subjectif. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a juste chacun et chacune avec sa réalité et puis ce qu'il ou elle a envie d'en faire.
Oui, je comprends tout à fait. Et c'est intéressant que tu parles des réalités. Ça me fait penser finalement au fait qu'on se construit par rapport... à l'image qu'on veut donner, à la pression en quelque sorte de la société. Et du coup, par rapport au niveau qu'on était interpersonnel, là, si on vient à un niveau encore plus macro, qui est notre rapport entre le corps et le monde, je voulais te poser la question, pourquoi le corps, au sens du corps sensible, est rarement pris en considération dans notre société par opposition au corps mécanique et au corps esthétique ?
Alors... Juste pour qu'on s'accorde, moi j'entends quand tu me dis corps sensible, tout ce qui est du domaine des émotions, des sentiments, et du corps mécanique, tout ce qui est plus sur les muscles, les organes, l'apparence.
Ouais. Et le corps esthétique, c'est plus les par rapport au diktat, on va dire, de la beauté.
Oui, donc effectivement, selon toi, le corps mécanique est plus pris en compte que le corps sensible.
Exactement.
Ouais. Bah, je dirais que je suis assez d'accord avec ça, d'autant plus que, alors moi j'ai toujours cette vision par rapport au genre, sur le corps mécanique, première chose qui me venait c'est de me dire, ah oui, effectivement c'est le cas pour les hommes, hein, on valorise plus ça, leur capacité notamment sportive, hein, dès le plus jeune âge, hein, des petits garçons, et donc ça passe par le corps, par les muscles, par leur aptitude à sauter, courir, etc. Et j'allais dire moins les femmes, mais en fait je trouve que c'est très juste ce que tu soulignes par rapport au côté esthétique, parce que les femmes, ça arrive au même moment, un peu vers l'adolescence, et là, c'est plus sur un versant, effectivement, cosmétique, lié à la norme de beauté. Après, sur le corps sensible, moi, je dirais qu'il est quand même très présent pour les femmes, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que tout le travail émotionnel, relationnel, c'est quand même pour notre pomme. Enfin, en tout cas, moi, je le constate à mon échelle. C'est par exemple le carnet intime. Alors ça, c'est un truc qui a ressorti de dessous les fagots pour moi, un humoriste féministe qui s'appelle Laurence Yama, et dans son spectacle Bonhomme, qui est excellent d'ailleurs, que je conseille à toutes et à tous. Et il parle du carnet intime et il dit à juste titre, mais lui il a été élevé avec deux sœurs, dont Céline Sciamma, il disait, mais moi, j'ai jamais eu de carnet intime, quoi. Et j'aurais trop voulu mettre mes émotions, enfin, écrire dedans, mettre mes trucs, quoi. Et on lui a jamais proposé. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ça. Le carnet intime, moi, j'en ai eu des tonnes, dont le premier fameux avec le petit verrou, hein, et la mini-clé, là, qu'il faut pas perdre. et j'en ai eu, après, j'ai utilisé d'autres carnets à l'adolescence, des cahiers. J'ai écrit, et oui, et ça parle beaucoup d'émotions, d'amour. Alors, bien sûr, d'amour déçu et très platonique pour ma part. Mais voilà. Et du coup, j'ai posé la question à mon frère, mais toi, t'avais ça? Et il m'a dit, bah non. Bah, c'est vrai que dès le début, on ne part pas avec le même potentiel. Enfin, on ne nous propose pas la même chose, en fait. Et moi, je crois que ce qui fait aujourd'hui aussi ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'une qui est assez voilà, à l'écoute de ses émotions, des émotions des autres, qui aime voilà, parler de ça, qui aime la relation à l'autre. D'ailleurs, c'est le cœur de mon métier aujourd'hui, et c'était déjà le cœur de mon métier quand j'étais dans la com, que j'étais chef de projet, je faisais de la coordination, et c'était complètement cet aspect relationnel que j'ai adoré d'ailleurs dans ce taf. Je me dis que ça a potentiellement influé le fait que dès le début, on me donne l'opportunité de parler de mes émotions, en fait, de les écrire, de les sortir de moi, de pouvoir les relire même. Et c'est pas le cas pour les garçons.
Alors, je comprends tout à fait la distinction que tu fais entre les femmes qui sont dès leur plus jeune âge beaucoup moins contraintes dans la façon dont elles se libèrent de leurs émotions par rapport aux garçons où on leur dit bah, en fait, faut pas pleurer, ça, c'est plutôt réservé pour les filles. Mais finalement, est-ce que le fait de proposer aux filles de libérer leurs émotions en les écrivant dans un carnet, c'est pas aussi une manière de leur dire que comme ça, elles vont moins montrer ces émotions-là en public?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est hyper intéressant. Ça peut être aussi une manière de les sceller quelque part, les enfouir d'ailleurs. Il faut pas qu'elles en sortent des carnets, il y a une clé dessus. Les émotions.
Ouais, voilà, en fait, c'est s'en libérer, mais d'une manière intime. Ouais. C'est tout là le carnet intime, en fait.
Et puis, ouais, complètement. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est le fait de les garder pour soi. Et ça rejoint un peu ce que je pointais au début, c'est-à-dire ces émotions, on les garde pour soi, on n'en parle pas. Et du coup, dans l'espace public, dans la vie globale, quand on grandit, ben, on s'occupe, nous, en tant que femmes, des émotions des autres. Mais par contre, on va avoir plus de mal à dire, ben voilà, moi, là, je me sens comme ça.
Et comme tu me disais tout à l'heure que tu préférais les questions en comment plutôt que les questions en pourquoi, je voulais te demander comment investir le monde avec son corps dans nos expériences, nos découvertes, etc., pour vivre pleinement, en accord avec soi-même et ainsi faire tomber le masque social.
Je vais parler de mon point de vue, hein, parce que je ne suis qu'une réalité subjective, hein, donc... Pour moi, c'est passé par le sport, cette réappropriation de mon corps, mais aussi de l'espace public, parce que l'air de rien, avec la course à pied, moi, j'ai beaucoup couru à l'extérieur, que ce soit dans ma ville, en long, en large et en travers, à n'importe quelle heure du jour ou du soir. J'ai couru aussi à l'étranger. Je me suis inscrite quand je suis partie un mois voyager seule en Nouvelle-Zélande. J'ai été faire un trail aussi là-bas. Et du coup, ouais. Au-delà du sport, il y a eu aussi, mais c'est lié, tu vois, les deux se sont liés pour moi, le fait de voyager seule. Pour la première fois, je partais seule aussi loin. Bon, en Nouvelle-Zélande, je crois qu'on peut faire difficilement plus loin, hein, par rapport à la France. Je pense que j'avais à peu près pris le truc le plus opposé. je suis partie un mois, donc je n'étais jamais partie plus de 3 semaines, quelque part. Et je suis partie surtout sans planning. Gros challenge pour la nana ultra mentale que je suis. Et ça m'a énormément appris, quoi. Alors, c'est un peu extrême. C'est ma façon de vivre les choses. D'extérieur, ça peut paraître complètement fou et flippant. Il faut savoir que moi, j'aime l'intensité. C'est pas pour rien que je me suis mise au sport et qu'au bout de 3 ans, j'ai couru mon premier marathon. C'est quelque chose dans lequel je suis plutôt à l'aise. C'est ma façon d'appréhender le monde. Mais... ouais, le fait de voyager seule, ça a été une grosse épreuve. Et je dirais que je pensais que ça allait être une grosse épreuve, surtout un peu physiquement. Enfin, c'est-à-dire de ne pas avoir de planning, de ne pas savoir où faire voyager mon corps, quand, parce que j'avais volontairement rien prévu à l'avance. En fait, bizarrement, j'ai plongé, donc je suis partie. Et puis bah, les choses se sont mises en place petit à petit. Je m'étais inscrite sur un groupe de backpackers via un réseau social, et du coup j'ai rencontré une première personne avec qui j'ai passé une semaine. C'était super, c'était une jeune Suisse allemande super sympa, et voilà, ça m'a donné confiance et j'ai continué à voyager comme ça de proche en proche. Et donc globalement, gérer mon corps dans cet environnement inconnu, ça a été assez simple, finalement. Mes questions, c'était qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, et où tu veux être demain. Et au final, c'est ça qui me faisait super flipper à la base, mais assez rapidement, ça s'est résolu. Je me suis adaptée. Ça, le fait de plonger, ça a vraiment fait que ça a accéléré mon adaptation. J'ai pas eu le choix, en fait. Mon corps a été projeté là-bas. Bon, bah, il s'est débrouillé, quoi. Et par contre, mentalement, qui est pourtant ce que je considère chez moi plutôt un point fort, ça a été ultra difficile à certains moments. Et alors là, je parle de mon point de vue de privilégié, à tout point de vue, blanche, valide, aisée, etc., etc. Il y avait vraiment des moments où je me suis sentie ultra mal, alors que j'étais justement sur des plages magnifiques, enfin, avec une chance énorme, en fait. Et d'ailleurs, j'avais à la fois, je ressentais ce vide intérieur parce que je me sentais très, très seule. J'aurais aimé partager, en fait, ces moments avec des personnes proches, un amour, des amis, de la famille. Et j'étais seule physiquement. Et dans ma tête, du coup, c'était hard parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Ça n'avait plus de sens à ce moment-là. Et en plus, je culpabilisais parce que je me disais, mais tu vas pas te plaindre maintenant de ça, plus d'être sur cette plage paradisiaque. Donc voilà, ça a été très, très surprenant, mais comme quoi, voilà, parfois, le corps peut être un allié et le mental un dur à cuire.
Mais est-ce que finalement, ce qui fait que ton rapport au corps là-bas était différent de ce qui était en France, est-ce que c'était juste parce que tu étais dans une logique de lâcher prise ? Enfin, juste si on peut dire, c'était déjà un vrai travail. Ou est-ce que c'était parce que justement, comme tu disais que tu étais à l'autre bout du monde, tu n'avais rien à perdre là-bas, il n'y avait personne qui te connaissait et du coup, tu te posais moins la question du regard des autres ?
Alors, pour ma part, je pense que c'est plutôt la première option parce que le regard des autres, j'ai l'impression que globalement, j'y étais quand même assez moins poreuse depuis longtemps. Et je pense que ça vient non pas d'une force particulière et d'une confiance en moi débordante. C'est plus que moi, toute petite, je me suis vécue comme une personne atypique. Et c'était lié à deux choses principales. Moi, j'ai été élevée sans télé dans les années 80. Donc aujourd'hui, la télé, on s'en fout peut-être un petit peu plus parce que tout le monde est sur les ordis, les réseaux sociaux. Mais dans les années 80, la télé, c'était quand même un énorme outil de socialisation. Tu arrives à l'école, « Ah, t'as regardé tel truc ou t'as regardé telle série cet été ?» Et bon, et puis moi, j'étais toujours larguée. Donc voilà. Donc déjà, voilà, j'ai senti très tôt le regard des autres qui me disaient « T'es différente, en fait. » Et en plus, j'ai un père qui est avec qui j'ai quasiment deux générations d'écart, en fait, qui aurait plus l'âge d'être mon grand-père que mon père. Il m'a eu à 52 ans. Donc, très différent. Enfin, je me suis sentie très différente des autres très tôt. Et je crois que ça m'a fait beaucoup souffrir en tant qu'enfant, hein, parce que quand j'étais enfant, j'avais bien entendu envie d'être comme tout le monde et d'être, entre guillemets, normale. Mais je pense que ça m'a permis de me construire aussi, du coup, en différente. Donc, de moins... moi, j'ai l'impression qu'à travers le regard des autres, ce dont on a peur, c'est que les gens nous trouvent différents et bizarres. Mais moi, en fait, comme on me l'a dit très tôt, je m'y suis fait très vite. Et limite, c'est plutôt devenu un instrument de revendication. Tu vois ? Finalement, dans ce voyage-là, limite, je m'en suis servie pour me dire, vous voyez ce que je n'osais pas faire là, partir seule un mois sans planning à l'autre bout du monde, moi je vais le faire. Ça m'a limite aidée, tu vois.
Ok, je comprends tout à fait. Ouais, mais tant mieux. Ça peut en inspirer, tant mieux. Et je voulais terminer par une question un peu plus personnelle, même si jusque-là tu t'es déjà beaucoup livrée avec nous. Toi qui dis vivre tes transformations personnelles à travers ton corps, tu parlais de voyage en toi que tu avais fait quand tu avais fait ta formation de coaching. J'ai vu un extrait d'un podcast où tu disais « Je n'en suis qu'à ma deuxième vie et je sais qu'il y en aura d'autres ». Je voulais savoir si tu avais déjà des idées de l'orientation que pourrait prendre la future troisième vie qui était en train de s'ouvrir.
Je dirais même que là, j'en vis quand même deux en parallèle, des vies. Déjà en ce moment parce que je suis autrice par ailleurs et d'ailleurs là je viens d'écrire mon troisième livre que j'autodiffuse. Donc là je suis coach, je suis autrice, j'accompagne aussi des personnes dans l'écriture de leur premier livre du coup parce que ça tombait un peu sous le sens et surtout ça me plaît beaucoup. Pour la suite en fait, j'ai été tellement longtemps à un moment dans du mental à prévoir etc. toujours dans cette histoire un peu de gagner de la marge, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus dans je vis le présent et je vis à très, très court terme. Et c'est OK pour moi de ne pas faire des plans dans 6 mois, en fait. Et comme en ce moment, je suis plutôt là-dedans, eh ben, tu vois, disons que là, aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité du tout de savoir ce que je ferai dans 5 ans. Après, aujourd'hui, là, j'ai 35 ans. Je me suis dit, moi, à titre personnel, que d'ici mes 40 ans, j'aurais quitté Paris et que j'ai envie d'être en copropriété, de faire un habitat partagé dont je sois copropriétaire, en fait, pour me libérer de la charge du loyer et me sentir plus libre, en fait, dans mon métier. Donc, il est plutôt là, en fait, mon projet. Après, le coaching, j'ai l'impression, mais bon, j'ai l'impression, parce que je suis au début, là, dans les 3 premières années, que quand même, ça va m'habiter toute ma vie, parce que ça m'a tellement transformée profondément. Ça fait tellement partie de moi. D'ailleurs, parfois, c'est chiant. Parfois, quand je suis avec mes amis, enfin, je n'ai pas ma cape de coach, j'aimerais pouvoir être plus comme avant, plus...
Pas de déformation professionnelle.
Oui, voilà, pas de déformation pro, exactement, tu vois. Mais, donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus des vies qui vont pas, qui vont s'empiler, en fait.
D'accord. C'est pas linéaire, tu vois. Ça va être plusieurs
chemins. Ouais, je le vois pas comme une suite. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je coach, je constate que les 10 ans que j'ai fait dans la com m'ont énormément déformé aussi, mais positivement. Et donc aujourd'hui, j'ai un coaching, moi personnellement, assez opérationnel. J'aime quand les personnes sont dans le concret, sont dans l'action. Et c'est là où je suis la meilleure dans les accompagnements, je le sens. Et je sens bien que c'est la chef de projet derrière qui parle, qui accompagne en tout cas de toute sa présence.
Je comprends. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi de ce beau sujet.
Merci à toi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.